c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus. Oh, il n'y a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
À tous,
on y va. Allez, c'est parti.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vivement le promontoire qu'on se pousse. Et oui, de nouveau deux Elsa ce matin dans le studio de Radio Sainte-Afrique. Notre chère Audrey est restée coincée sous la neige de Salel. Je l'imagine bien en compagnie de sa charmante mésange bleue, contemplant toutes deux le paysage bucolique et infini. Et enfin, un peu de testostérone tout de même, avec notre grand dormeur devenu matinal cette semaine, Phil à la technique. Au sommaire de cette édition, fidèle au poste, Elsa Gourmand nous a concocté une revue de presse décapante, pleine de marcs de café et sirupeuse. S'en suivra une chemise à rayures agricole et radioactive. Monsieur Fauconi nous fera un bilan du projet de la couveuse maraîchère installée sur les plaines de Lomière. Philippe Tellier du réseau Sortir du Nucléaire et Cotoé nous présenteront la soirée qu'ils organisent ce samedi à Sainte-Afrique. Et enfin, Sylvie Boulard nous régalera de sa parenthèse littéraire épicée. Nous continuerons de voyager dans les senteurs folles et les paysages incroyables de l'Inde avec l'histoire du jeune Kim. Commençons cette émission tout en douceur et en mélancolie avec Gary Jules. Mad World de Gary Jules. Alors, tu sais ce que ça veut dire, Elsa, toi, qui as de grands talents en anglais? Mad World, ça veut dire quoi?
Je sais pas.
Ça veut dire c'est un monde de fou, un monde fou. Et c'est aussi la musique du film Donnie Darko. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un jeune homme qui est lycéen et qui, quand il se regarde dans la glace, voit un gros lapin démoniaque. Enfin, voilà. Bon, quelles sont les nouvelles du jour, Elsa?
Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
Eh bien, pour commencer, on ne déroge pas à la règle avec les unes de quelques-uns de nos quotidiens. L'UMA fait sa une sur la Grèce. Le peuple se soulève contre l'austérité, le nouveau plan imposé par l'Europe et le FMI. Et l'UMA vous invite à signer une pétition en solidarité avec la résistance grecque. Le Monde vous propose à partir d'aujourd'hui une série de reportages réalisés à Homs, en Syrie, par Jonathan Little, l'auteur des Bienveillantes, et le photographe Mani. Passage clandestin, c'est le titre de ce premier volet. Ça durera donc toute la semaine. Libé, Mani, l'humour. À l'occasion de la Saint-Valentin. Comment se déclarer, demande Libé. Et le quotidien de donner quelques conseils à, devinez qui? À Nicolas Sarkozy.
Mmh.
Eh oui. Chez nous, le Midi Libre n'échappe pas à la fête commerciale qu'est la Saint-Valentin, avec deux pages consacrées aux plus belles déclarations d'amour, dont celles de quelques personnages célèbres. Mais ces belles ou mièvres envolées lyriques ne doivent pas nous empêcher d'avoir les pieds sur terre, puisque le Midi Libre a tout de même choisi de faire sa une sur les radars qui flashent le plus. Des nouvelles de... Il y a Philippe qui fait le zouave derrière la vitre.
Il se fait mitrailler, le pauvre.
Ouais, il se fait mitrailler. Ça y est, il est mort. Complètement mort.
Il n'a répondu plus de rien à la technique.
Voilà. Des nouvelles de notre douce France en pleine campagne électorale. Dans Marianne, Jacques Dion s'indigne sur le traitement fait à Jean-Luc Mélenchon par Le Monde. Le Monde qui a consacré une page à l'affrontement entre le Front National et le Front de Gauche sur le terrain. Fort curieusement, nous dit Jacques Dion, cet ensemble, au demeurant pas inintéressant, a été résumé par un titre de première page significatif des obsessions du journal du soir. Mélenchon, Le Pen, le match des populismes. On ne pouvait trouver formule plus caricaturale et vision plus erronée, s'indigne Jacques Dion. Ce renvoi dos à dos est insultant pour le candidat du Front de Gauche, mis d'office dans le même sac d'infamie que la fille Le Pen, alors qu'il passe une bonne partie de sa campagne à révéler le vrai visage de cette dernière. Au passage, qu'il le veuille ou non, Le Monde blanchit la représentante du Front National. Quant à la remise en scène du populisme, elle rappelle le temps où les bourgeois parlaient des classes dangereuses. Il est significatif que l'insulte suprême pour une partie de l'élite soit un mot valise, faisant expressément référence au peuple. Et aujourd'hui, poursuit Jacques Dion, le simple fait d'évoquer certains sujets vaut accusation de crime contre l'esprit. Critique-t-on le bilan de la zone euro, ce navire à la dérive? Populisme. S'interroge-t-on sur la mondialisation néolibérale et libre-échangiste pilotée par des organismes internationaux où cohabitent représentants de la social-démocratie chic et de la droite choc? Populisme. Mettons en garde contre le décrochage des couches populaires qui expriment à la fois un scepticisme vis-à-vis des partis de gouvernement et un espoir de changement d'autant plus fragile qu'il a souvent été échaudé par le passé. Populisme. Suggère-t-on qu'un futur président de gauche ne pourra se contenter d'agrémenter la rigueur pour retrouver de la crédibilité? Populisme. Avance-t-on l'idée que la dénonciation de la finance devra déboucher sur des décisions concrètes pour ne pas se perdre dans les sables mouvants du verbe? Populisme. La mécanique est imparable, elle permet de fermer le débat avant de l'avoir ouvert ou de tout mélanger afin de même mieux brouiller les cartes, comme l'a fait si brillamment Le Monde à propos de Mélenchon et de Marine Le Pen. C'est un piège redoutable. Car si l'on veut sortir la société française de son traumatisme social et moral, il faudra bien regarder la réalité en face, aussi dérangeante soit-elle pour les élites qui parlent du peuple comme les douairières prennent leur sucre avec des pincettes.
Devant les discours infâmes de nos décideurs qui brament leurs sermons moralisateurs, ayez confiance et n'ayez pas peur. Soyez solidaires, dynamiques, ne fumez pas de hack-ick. Entreprenez, investissez, soyez forts et déterminés. que l'état soit plus balèze, on vous piquera un peu plus de pèse. Nous pauvres cons, on baisse le front et ils organisent l'exclusion.
Un traitement du leader de front de gauche, du front de gauche, qui a aussi fait réagir un de nos fidèles auditeurs, Jean, qui nous a fait passer une lettre qu'il a écrite au courrier des lecteurs du Monde. En voici un extrait. Je veux réagir à l'article de Raphaël Besse-Desmoulières et Abel Mestre intitulé Mélenchon-Le Pen, le match des populismes, en une du journal Le Monde du mercredi 8 février 2012. Ce titre, extrêmement violent et manifestement assumé par les auteurs, rappelle l'ignoble dessin de Plantu représentant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon faisant le salut nazi. C'est de la diffamation soft, sans en avoir l'air. Il laisse entendre que non seulement le porte-parole du Front de Gauche et celle du Front National, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, seraient faits de ce même bois qu'on nomme populisme. Et qui plus est, que ce qu'on nomme habituellement l'extrême gauche et l'extrême droite seraient deux extrémismes dangereux et identiques. Cet amalgame injuste et faux est une ancienne éculée de la droite RPR-UMP, typique exemple de populisme allié à la démagogie cynique qu'on rencontre souvent à droite. Non seulement le front de gauche est ce qui reste de l'extrême gauche à la veille des présidentielles, mais nous l'appelons simplement la gauche, étant donné le glissement conservateur qu'ont opéré nombre de partis politiques européens et d'ailleurs. Le PS, virant libéral et reniant ses origines socialistes, et la droite, glissant sans cesse plus vers le populisme outrancier de l'extrême droite. Les auteurs n'ont pas l'air gênés, en revanche, par le discours ouvertement populiste, démagogique et cynique de M. Guéant, qui persiste et signe en affirmant les demi-vérités et jouant sur les mots, selon la méthode typique de l'extrême droite. « Toutes les civilisations ne se valent pas », insistant lourdement, suivez mon regard, sur les populations arabes et musulmanes.
L'univers entier nous envie, le talent de nos dirigeants, dont le cerveau la rabougrie ne véhicule que du vent. L'idée de la pensée unique, c'est plus c'est nul, plus je te nique. C'est vous dire la force des concepts qui germent dans leur cerveau inepte. La République sans jeu de mots, ils la prennent pour une pute, lui font des papouilles, des turlutes, et se foutent de guérir ses maux. La trahison de leurs promesses, ils la lui mettent entre les fesses. Le fin du fin pour leur boutique, c'est la renommée médiatique. De leur bouche d'or pointe et ructant, leur langue de bois cousue de fil blanc, pour nous déverser un wagon de lieux communs comme des étrons.
Alors en 2007, vous vous souvenez sans doute, Nicolas Sarkozy n'avait pas à hésiter à récupérer Jaurès, Guy Môquet et quelques autres figures de gauche. Il n'en reste donc plus beaucoup qu'il pourrait reprendre à son compte pour sa nouvelle campagne. Il a donc cherché et encore cherché. Et figure-toi, Elsa, qu'il a trouvé. Eh ouais, c'est le canard qui nous rapporte cette petite pépite. C'était lors d'un conseil des ministres. Nicolas Sarkozy a annoncé un nouveau geste en direction de la communauté arménienne. La promotion, à titre exceptionnel, d'Arsène Tchakarian au titre d'officier de la Légion d'honneur. Et je le décorerai moi-même à l'Élysée, a pris soin de préciser Sarko. Une promotion confirmée depuis par un décret présidentiel publié au journal officiel du 3 février. Alors qui c'est ce monsieur Tchakarian ? Il est âgé de 95 ans et il est le dernier survivant du groupe des résistants communistes Manoukian. C'est ces 23 militants qui avaient été fusillés par les Allemands et qui militaient au sein de la MOI. Rester un militant dans l'âme, toujours révolté par le système capitaliste et portant un œil bienveillant sur le mouvement des indignés, Tchakarian affirme toujours appartenir à la classe ouvrière. Faut-il préciser, nous dit le canard, que Sarko prépare pour l'occasion une cérémonie en grande pompe avec des centaines de représentants de la communauté arménienne et un beau discours. Le tout avant le premier tour, bien sûr. Mais il serait de mauvais goût d'y voir la volonté de récupérer tout ou partie des 450 000 électeurs d'origine arménienne.
À vrai dire, j'en ai rien à faire du bon goût et des bonnes manières. Pourquoi nous laisser gouverner par des bouffons crétins fiéfés? C'est de ne pas gueuler qu'on crève. On n'a qu'une vie et elle est brève. À cette pensée, mes yeux se mouillent. Faudrait plus qu'on nous casse les couilles.
Alors ça, c'était François Béranger. C'est la chanson Les Bouffons. On passe à autre chose. En Italie, les caisses de l'État sont vides. Puis ça va pas s'arranger. Qu'à cela ne tienne, pour les remplir, qu'est-ce qu'on fait? Hein, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on taxe les prostituées, ça coule de source, voyons.
Comme c'est intelligent.
Le courrier...
bah
ouais, c'est le courrier international qui nous fait part de cette initiative de la ville de Bologne, en Italie. Dans ce chef-lieu, les forces de l'ordre recensent les prostituées et la Direction générale des finances publiques italiennes se charge de les taxer. Et ce, même si elles n'ont droit ni à la retraite ni à la sécurité sociale, comme s'en indigne un défenseur des droits fondamentaux. L'expérience pourrait être étendue à d'autres villes italiennes. Et cela en toute légalité, puisque en 2010, un arrêt de la Cour de cassation a établi que les revenus tirés du commerce de son propre corps pouvaient être assujettis à l'impôt. Jusqu'ici, cette théorie n'a pas été mise en pratique à cause du grand nombre de filles d'origine étrangère qui sont prisonnières des réseaux et qui souvent sont simplement de passage en Italie et donc difficiles à retrouver. Et aussi parce que les résultats des premiers contrôles effectués sur le territoire italien ne sont pas à la hauteur. Mais la situation est en train d'évoluer du fait de la situation économique. La légalisation de la prostitution permettrait effectivement d'avoir des retombées positives sur le PIB italien.
On dirait une blague.
Et ouais, ben non, l'argent n'a décidément pas d'odeur. Mais ceci dit, c'est en Allemagne que ce principe atteint sans doute les sommets de l'absurde. Alors ça se passe à Bonn. Les prostituées doivent payer 6 euros de taxes pour pouvoir travailler en toute légalité dans la rue. En 2011, la municipalité a instauré une sex-tax. Donc les intéressés doivent prendre un ticket à une sorte de rodateur. C'est pas une blague. Et le ticket est valable de 20h15 à 6h du matin. Voilà. Et si elles ne prennent pas ce ticket, elles risquent 100 euros d'amende.
C'est super.
Voilà, quand l'État se paye sur le cul des prostituées, c'est qu'il est tombé bien bas. Si seulement, je me disais, on pouvait appliquer le même traitement implacable à la délinquance en col blanc ou à la fraude et à l'évasion fiscale des plus aisés, ce serait pas mal. Mais là, visiblement, ils y mettent moins du leur, les dirigeants. Enfin, si ça se trouve, hein, pour enflouer les caisses de l'État, Sarko va peut-être s'inspirer de cette chanson.
Adieu, fais-toi putain. Va-t'en gagner ton pain. Adieu, ma fille.
Maman.
Adieu. À la grâce de Dieu. Tu vas quitter ta bonne mère pour t'en aller dans un boxon. Je ne te retiens pas, ma chère, si c'est là ta vocation.
Suis bien les conseils de ta mère.
Avant toi, je fis ce métier. Tu n'as jamais connu ton père.
C'était peut-être tout le quartier. Adieu, fais-toi, putain. Va-t'en.
Chancre, poulain, etc.
Et ne crois jamais sur parole le fouteur qui te baisera.
Regarde bien si sa culotte cache un vie bien entretenu. Découvre toujours la calotte avant de lui prêter ton cul.
Adieu.
Prends le maquereau.
Tâche de te conserver belle.
Et surtout n'épargne pas l'eau.
trois fois par jour dans ta cuvette. Lave ton cul bien proprement.
Et dans ta table de toilette, que l'ongle en gris soit abondant.
Adieu.
Fais-toi putain, une chanson paillarde dont je ne connais ni l'auteur ni l'interprète, mais c'est pas mal quand même.
Alors après la grosse bite à Dudule, fais-toi putain, mais où va Radio Saint-Afrique
nous répondre ? On se demande.
De rien. Bon, mais place à la chemise à rayures. Hein.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Saint-Afrique.
Hier, dans la chemise à rayures, nous avons abordé le sujet de l'association Solitaire qui essaie de faire fonctionner un circuit court sur Sainte-Afrique et sur 6 autres communes du Sud-Aveyron. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de la couveuse maraîchère qui est en cours de construction depuis bientôt 3 ans sur Sainte-Afrique. Historiquement, le joli coin d'Aveyron était une importante zone de maraîchage. À Vabre, le long de la Sorgue et encore du Dourdou prospéraient de nombreux jardins. Mais à présent, les choses et le temps changent. Quand nous consommons de la nourriture de proximité, il est plus facile de se fournir en viande et en lait qu'en légumes et en fruits. Pour ce projet d'implantation d'une couveuse maraîchère, des terres communales sont déjà mises à disposition. 3 hectares de foncier situés à un quart d'heure de Sainte-Afrique, sur les plaines de Lomière. Monsieur Fauconnier, sénateur et maire de Sainte-Afrique, nous rappelle ce qu'est une couveuse maraîchère.
On est confronté à quelque chose d'exceptionnel. Hein. La couveuse, c'est quoi ? C'est mettre à disposition un lieu pour que quelqu'un s'initie à son métier, hein, pour qu'il se sécurise dans son projet, et après qu'il parte ailleurs ou qu'il parte dans le territoire pour s'installer réellement en tant que propriétaire. On arrive au bout, au terme de ce travail-là, et encore il reste très sincèrement à purger quelques problèmes de voir quelle est la structure, quelle est l'institution qui est la mieux à même de porter le projet, hein, entre communautés de communes, entre parcs, entre collectivités. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de référence à le domaine. Autant les autres, on me dirait, on fait une pépinière à Sainte-Afrique classique, hein, il n'y a pas de problème, on sait faire. Là, en agriculture, hein, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'innovation, hein, et c'est un peu long, légitimement, même si je comprends que certaines aient du mal à le comprendre. Voilà.
Vous l'aurez compris donc, c'est complexe. Il faut du temps pour créer ce genre de projet innovant, selon les termes de M. Fauconnier. Là encore, les choses restent relatives, car plusieurs communes en France ont déjà installé des maraîchers sur des principes de couveuse. Voyons de plus près pourquoi ce projet tient autant en longueur.
Si ça concernait que la collectivité, si ça concernait qu'à mettre du foncier à disposition, on sait faire. Hein. On a trouvé, on s'y est mis, il y a eu la volonté, il n'y a pas de difficulté. Mais là, on est dans un système qui consiste à la fois à aider des agriculteurs à s'installer, donc c'est à la fois les former, sécuriser leur projet professionnel. Ça touche à l'agriculture, c'est complexe, c'est à la fois apprendre à produire, apprendre à vendre, hein, établir leur circuit de commercialisation. Ça, c'est un projet compliqué. Et on a l'obligation de nouer des tas de partenariats. Hein. Donc, quand on est plus nombreux à se mettre autour de la table, c'est toujours plus compliqué à aboutir quelquefois. Alors, il faut savoir qu'on noue un partenariat très fort avec le lycée agricole pour tout le volet formation. Avec une complication, c'est que le lycée agricole est surtout axé sur les problèmes de production animale. Et là, on a passé une convention entre le lycée agricole, qui lui-même a pris une convention avec la maison familiale de Brins, qui est spécialisée sur les productions végétales. Vous voyez un petit peu, là, Brins, c'est dans le Tarn, hein, voyez, voilà la complication. On a noué des partenariats avec la chambre d'agriculture. Puisque la chambre d'agriculture, c'est son cœur de métier, l'installation. Hein. Bon, on a noué des relations aussi avec la MSA, qui a qui a dans son portefeuille, entre guillemets, de clients potentiels, un certain nombre de personnes qui sont au RSA ou qui sont quelquefois en difficulté ou en installation difficile. Et là, il y a un suivi particulier. Et puis, bien entendu, on est contraint de... Enfin, pas contraint, on a aussi un certain nombre de partenariats avec les financeurs potentiels, que sont la région, le département, l'Europe, l'État, bien entendu. Hein. Donc, vous voyez la complexité du dossier, hein, voilà.
Au tout début, c'est la SAM Immobilière qui a porté le financement de la préétude du projet. Aujourd'hui, le financement revient à la collectivité et à la commune de Sainte-Afrique. L'idée serait de demander des fonds à l'État et à l'Europe, les finances de la commune qui se transformeraient alors par la suite en un cofinancement. Le projet est installé à Lomière, relativement loin de Sainte-Afrique, dans un endroit désert puisqu'il n'y a ni local de formation, ni locaux d'accueil, ni clôture des terres. Tout reste donc à faire. Selon M. Fauconnier, l'une des raisons pour lesquelles le projet s'installerait sur les terres de Lomière retirées de Sainte-Afrique est que pour démarrer une conversion en agriculture biologique, il faut qu'un certain nombre de règles soient respectées, et c'est le cas de ce terrain-là, puisque c'est communal, ça ira plus vite. Installer des gens de façon temporaire sur la couveuse de Lomière est une chose, mais une installation plus pérenne par la suite avec un véritable accès au foncier en est une autre. Voyons ce que la commune envisage par la suite.
L'installation, il est clair qu'il faudra dégager du foncier. La particularité du maraîchage, c'est que ça ne demande pas des hectares. Donc, je ne pense pas que ce soit une vraie difficulté, le foncier, là, dans ce domaine. La vraie difficulté sur le maraîchage, c'est la formation, la compétence. Hein. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un secteur où, a priori, beaucoup se disent « Mais moi, attends, je vais vivre de maraîchage bio, nanana. » Hein. Il n'y a rien de plus compliqué techniquement, de plus complexe techniquement, que de faire un maraîchage dans le domaine de l'agriculture biologique. Hein. C'est des métiers extrêmement techniques, hein. Contrairement à ce que croient les oiseaux, qui pensent qu'ils vont s'installer comme ça. C'est faux. C'est plus facile de faire maraîchage artillerie lourde avec en foutant des produits en veux-tu en voilà, que de faire ce genre de type d'agriculture. Ça demande de la technique, ça demande des qualités scientifiques, hein, et donc ça demande de vraies productions. Donc le souci, c'est pas le foncier pour nous. Hein. Le souci, ce sera l'accompagnement technique, hein, et la capacité de trouver des jeunes voulant s'installer et qui font cet effort-là de formation. Vous savez, du foncier, quand on fait un peu de prospective sur ce qui va se passer sur le territoire au niveau foncier dans les années qui vont venir, à mon avis, le souci, ça sera plus de savoir si ce sera des friches, hein, ou si ce sera des lieux de culture. Hein. Donc moi, je n'ai pas de souci pour qu'on arrive à faire ce genre d'installation. Non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de problème.
Le souci, ce n'est donc pas le foncier, selon M. Fauconnier, mais la compétence et le savoir-faire des jeunes et la difficulté toute particulière de ce métier. Pourtant, nombreux sont ceux qui possèdent déjà une vraie formation de maraîchage biologique et qui n'arrivent pas à accéder au foncier. Nous verrons bien ce que la commune mettra en place en termes de terres par la suite, car l'appui ne devrait pas être uniquement sur la formation, mais aussi sur les réalisations concrètes qui devraient suivre pour les jeunes et moins jeunes qui auront réellement choisi de vivre de ce métier. Samedi soir à 20h30 au Familial à Sainte-Afrique, une conférence sur le nucléaire vous est proposée. Après un film de 30 minutes intitulé « Climat d'espoir », Daniel Rousset et Marc Aroman du réseau Sortir du nucléaire viendront spécialement de Lyon pour partager avec vous ce moment. Philippe Tellier, tourneur sur bois installé sur le Larzac et membre du réseau Sortir du nucléaire Aveyron, nous en dit plus sur les objectifs de cette soirée.
On s'est rendu compte que il y a un an de cela, malheureusement, après Fukushima, on se souvient d'avoir fait 2-3 manifestations sur Mio, sur Sainte-Afrique, où là, il y avait en effet une centaine de personnes, donc c'était à chaud, malheureusement. S'il faut une catastrophe, c'est quand même terrible. Mais on se dit que le lobby est très fort. Enfin, c'est ce qu'on entend, quoi. Hein. Surtout ces jours-ci, quoi. Là, il n'y a pas de souci. L'audit qui est sorti avec l'ASN, donc on a plutôt des craintes à avoir. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait du monde, que les gens. J'espère que le front sera un peu tombé et que les gens daigneront sortir. C'est sûr et certain, ça va pas être du catastrophisme. Hein. Ce qu'on a envie, c'est d'ouvrir à notre niveau donc un débat sur la transition énergétique, quoi.
Cette initiative est donc organisée non pas seulement pour parler du nucléaire, mais aussi pour faire un bilan et envisager de nouvelles pistes possibles vers la transition énergétique. Voyons donc de plus près le programme de ce samedi à Sainte-Afrique.
Saint-Afrique sera une conférence débat, bien évidemment, qu'on a envie que les gens, et pas que les convaincus, parce que ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment que des tas de gens qui ont entendu parler ou qui sont plus ou moins intéressés par cette transition énergétique, viennent à cette soirée. C'est sacrément important. On n'a pas la science infuse, donc c'est pour ça qu'on se dote de Marc et de Daniel. Et même, on sait très bien que sur le Saint-Africain, on risque d'avoir les anti-éoliens. Donc, j'espère qu'ils seront conciliants et que ça soit pas un débat de nucléocrates et d'anti-nucléaires, quoi. Là, ce qui nous intéresse fortement, c'est cette sortie. Certes, nous, on est anti-nucléaire, mais c'est la transition énergétique pour la thématique du nucléaire en France, bien sûr, quelle est la situation avant les élections, c'est pas anodin. Et puis aussi, surtout, ce qui se passe au Japon, quoi. Alors, on aura normalement également Kotoe, qui est une citoyenne japonaise qui réside dans les alentours de Saint-Afrique, qui souhaite témoigner. Voilà pour Saint-Afrique, le samedi 18.
Philippe Tellier du réseau Sortir du Nucléaire Aveyron nous a présenté la soirée de ce samedi qui se tiendra au Familial de Saint-Afrique à 20h30. Sachez que cela se poursuit jeudi prochain à 20h30 à la Loco à Millau, mais cette fois-ci sous forme de café citoyen. André Larivière du réseau Sortir du Nucléaire Auvergne viendra animer la soirée. Il s'agira cette fois-ci d'un débat questions-réponses plus politique. Nous restons dans la soirée nucléaire puisque la japonaise Kotoe sera également là pour nous parler de l'après Fukushima au Japon. Nous avons sorti pour vous des archives de Radio Saint-Afrique cette interview faite en octobre 2011. Cela vous donnera un aperçu de ce qui vous attend samedi soir.
Domo konnichiwa. Watashi wa Maki no Kotoe desu. Nihon kara kimashita. Soshite ima wa Saint-Afrique ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu.
Donc nous sommes avec Kotoe qui est japonaise. Alors qu'est-ce que tu viens de nous dire là ?
Bonjour, je m'appelle Kotoe Makino. J'habite à Saint-Afrique maintenant et je viens du Japon et enchantée.
Enchantée Kotoe, tu habites au Moulin de Lin plus précisément.
Oui, c'est ça.
Donc Kotoe, toi ça fait 10 ans que tu t'es installée en France. Pourquoi t'as quitté le Japon ?
Pourquoi je suis quittée au Japon ? Parce que j'étais avec un Japonais, on était mariés, et il a décidé de prendre formation de cirque en France. C'est pour ça que je suis venue au départ. Ensuite, pourquoi Saint-Afrique ? Parce qu'il y a longtemps, je suis venue au Moulin de Lon et je suis tombée amoureuse là-bas. Et donc je me suis dit, un jour, je voulais vivre là-bas. Et après l'histoire de tremblement de terre du Japon, je me suis dit, c'est vrai que moi aussi, c'est possible que je vais mourir demain. Donc si c'est ça, je veux vivre la terre que je veux vivre. Alors j'ai décidé de venir ici.
Tu as raison, c'est vrai que le Moulin de Lin, c'est un très joli coin. Donc toi, j'imagine que tu as encore ta famille qui est au Japon. Du coup, tu dois être pas mal au courant de ce qui se passe après Fukushima. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Par rapport au Fukushima ? Oui, là, par exemple, il y a beaucoup de radiation dans Fukushima, même Tokyo aussi. Et avant-hier, j'ai regardé encore des infos. Et là, presque dans le Japon, partout, c'est radié. Donc là, maintenant, si les gens qui ont envie de manger bien, normalement, moi, je pense qu'il faut quitter le Japon, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a presque plus de nourriture saine. Mais c'est très difficile de décider de quitter le pays. Donc je comprends, mais en même temps, moi j'ai envie de protéger les Japonais. Alors j'ai commencé de organiser un peu avec les gens. Si les gens ils ont envie d'accueillir un peu les Japonais, je propose aux les Japonais de venir un peu en France.
Tu as déjà accueilli des familles chez toi, non ?
Oui, parti de mi-juillet jusqu'au mi-octobre. Voilà, ils étaient là pendant 3 mois. Avec elles, j'ai appris qu'on peut fabriquer des trucs pour protéger nos corps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les gens, après Tchernobyl, ils ont étudié plein de choses. Donc, ils ont trouvé un liquide fermenté. On peut faire soi-même. Et avec ça, si même ton corps qui est radié, si tu bois tous les jours, on peut guérir vraiment en radiation de corps, même la terre. Donc voilà, peut-être samedi, je vais montrer quelques documents comment il faut fabriquer des choses, quoi. Les Japonais, il y a beaucoup de mouvements d'arrêter complètement nucléaire. Mais sauf qu'un problème, c'est que radiation, ça se voit pas. Donc si on a envie de vivre normalement, bien sûr qu'on peut vivre normalement. Voilà, donc il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils sont conscients, mais ils ont peur d'accepter ou quelque chose, j'en sais rien. Et donc il y a beaucoup de gens qui vivent comme il n'y a rien à passer. Et il y a les gens, ils ont peur de radiation, donc qui bougent beaucoup. Donc en fait, il y a les gens qui sont beaucoup action, mais l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas l'action. Et ces gens-là qui sont en train de juger pourquoi tu as peur de radiation, ah, c'est nul, enfin, il n'y a pas de problème et tout, qui croient qu'il n'y a pas de problème parce que ça ne se voit pas. Donc il y a beaucoup de, comment dire, décalage entre les gens, même dans la famille, entre le couple. Voilà, donc je sais pas, c'est un peu difficile d'expliquer comment ça se passe, quoi. Mais pour ça aussi, enfin, pour ça que j'ai fait la traduction un peu de témoignages de japonais, comme ça, je pense que vous pouvez savoir un petit peu plus précise.
Merci Kotoe. Comment dit-on au revoir en japonais ?
Au revoir, sayonara.
Très joli ça, sayonara.
Sayonara, arigatou gozaimashita.
Kotoe qui sera présente samedi soir au Familial à Sainte-Afrique avec le réseau Sortir du Nucléaire pour faire un bilan de l'après Fukushima. Terminons cette chemise à rayures par un appel. Venez nombreux le 11 mars à la grande chaîne humaine. Près de 150 000 personnes sont attendues. Rappelons que le départ en bus est prévu à Millau et prendra les Saint-Africains à la cavalerie. Réservez une place dans le bus dès maintenant car il sera très vite plein en appelant le 05 65 49 36 11. Ils sont de retour avec nous avec un nouvel album tout chaud, tout chaud, tout chaud, l'Orchestre National de Barbès.
À la vie, oh mon amour, c'est toi ma vie privée. Je te garde pour toujours, combien de fois j'ai rêvé. Demain chat par ton tour, le chagrin c'est mauvais. Comme ça tu me feras la cour, et moi je serai sauvé.
chanson La Rose de l'Orchestre National de Barbès. Et maintenant, voici venu le temps de la parenthèse littéraire. Redécouvrons la littérature indienne de Rudyard Kipling.
La semaine dernière, je vous avais parlé de Rudyard Kipling, je vous ai présenté un peu le personnage. Bon, je ne me suis pas trop arrêtée sur sa biographie parce que, en fait, moi, ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse dans l'œuvre des écrivains. Bon, ce qui est intéressant, c'est de le situer, bon, de savoir un peu qui il était et puis à quelle époque. Mais le reste, c'est surtout de lire ses livres, quoi qu'il importe. Alors là, je voudrais vous parler d'un livre que moi, j'ai vraiment adoré, qui s'appelle « Kim ». Tout simplement. Alors Kim, on a souvent pensé que c'était un livre qui s'adressait aux enfants, un peu dans la lignée du livre de la jungle, mais en fait ça va bien au-delà de ça. Donc pour raconter l'histoire, le pitch, comme on dit, Kim c'est un jeune garçon dont le père est un soldat anglais qui a disparu, qui est mort, on ne sait pas trop, c'est pas trop dit, et qui lui a légué uniquement un espèce de collier dans lequel il y a quelques petits documents qu'il ne connaît pas trop, mais voilà, donc il espère toujours, ce petit Kim espère toujours un avenir meilleur. Et puis sa mère était une hindoue qui est morte, et il est plus ou moins élevé par une vieille tante indienne. Donc Kim vit à Bombay, et c'est un petit garçon très débrouillard, qui vit dans la rue, qui vit en mendiant, qui vit plus ou moins en rendant des services. Alors il travaille pour un marchand de chevaux, qui est entre autres un espion de l'armée anglaise, parce que ce livre c'est aussi une histoire d'espionnage, c'est vraiment un roman d'aventure. Donc c'est le roman de ce personnage, ce petit garçon, qui va rencontrer un sage tibétain qui, lui, est à la recherche de la vérité et qui, donc, pour pouvoir se purifier, recherche un fleuve qui coulerait au centre de l'Inde. Et ce fleuve serait né à l'endroit où Bouddha a lancé sa flèche. Et donc, ce sage fait tout un parcours initiatique pour essayer de retrouver ce fleuve. Et le petit Kim va partir avec ce sage. Il devient ce qu'on appelle son chela, donc son guide. C'est lui qui lui assure la nourriture, à savoir que, bien évidemment, les sages en Inde, à cette époque-là, sont vraiment, vraiment vénérés. Et donc, en fait, ils trouvent de quoi manger, ils trouvent de quoi s'abriter. Et ce qui est intéressant, c'est que donc tout le livre, c'est une traversée de l'Inde avec tous ces paysages, toutes ces odeurs, toutes ces couleurs, tous les personnages qu'on peut y trouver qui sont absolument formidables. Et bon, les deux personnages principaux, donc le petit garçon Kim et puis le sage, sont vraiment extraordinaires en fait. Puis il y a une espèce de langueur et puis en même temps une espèce de sérénité qui se dégage de ces personnages qui sont à la fois très dissemblables, puisque le petit garçon c'est un petit garçon roublard, très vif, très éveillé, alors que le sage, au contraire, lui, il apporte ce côté sérénité. C'est vraiment la rencontre de ces deux personnages est superbe. Et puis, on traverse tout ce continent et on a l'impression d'y être. Enfin, quand on voyage avec eux, on a vraiment l'impression d'être plongé en Inde. Alors, j'imagine bien que ça a été écrit. Enfin, le roman est sorti en 1901, je crois. Et donc, bien évidemment, je pense que l'Inde d'aujourd'hui ne correspond plus du tout à ça. Mais c'est vrai qu'en même temps, on a l'impression de quelque chose d'intangible, d'un continent qui, voilà, ses valeurs qui ne bougent pas, ses valeurs de paix, bon, à la fois de très grande violence et de très grande pauvreté, mais en même temps une espèce de, je sais pas comment dire, on accepte le destin, quoi, c'est ça. Et puis, la deuxième partie du roman, donc, Kim est un peu rattrapé par ses origines anglaises. Et donc, il est pris en charge par des soldats anglais, il rentre dans une école, et puis, petit à petit, il va devenir un espion de Sa Majesté. Bon, ça, c'est, à mon avis, peut-être la partie la moins intéressante, mais encore une fois, ce qui est beau dans ce roman, c'est qu'on voit le balancement entre les deux civilisations, finalement, le choc entre l'Occident, bon, effectivement, qui a colonisé l'Inde, hein, puisque le pouvoir, à l'époque, était un pouvoir anglais, et puis, c'est quand même le côté immuable de cette civilisation indienne, qui, quelque part, ne se plie pas. Enfin, bon, bien même si elle est colonisée, on se rend compte que la population indienne reste vraiment à une force, comme une espèce de force d'inertie qui lui permet de résister à toute, en tous les cas, la colonisation des esprits. Donc je vous conseille vraiment de lire ce roman qui est paru, vous le trouvez dans plusieurs collections de poche, en folio ou en livre de poche, et vous verrez que c'est vraiment à la fois c'est drôle, enfin il y a beaucoup d'humour parce que les personnages sont super, le style est un style très très précis, très coloré, très vif, et puis ça vous fait vraiment voyager dans l'Inde. Alors si vous voulez, je vais vous lire juste un très court extrait qui est le début du livre, ça, pour vous donner un peu une idée. Alors je mets le livre assez loin parce que j'ai pas de bons yeux et je vais me lancer. Kim avait quelques droits à sa place. Son pied venait de déloger d'un tourillon le garçon de Lala Dintana, puisque les Anglais tenaient le Pendjab et que Kim était anglais. Quoique le teint brûlé comme celui de n'importe quel indigène, quoiqu'il employât de préférence l'idiome du pays et parlât sa langue natale avec une sorte de chantonnement hésitant et cassé, quoiqu'il fréquentât sur le pied d'une égalité parfaite les petits garçons du bazar, Kim était un blanc pauvre parmi les plus pauvres. La femme de demi-caste qui prenait soin de lui, elle fumait l'opium et faisait semblant de tenir une boutique de meubles d'occasion près du square où stationnaient les fiacres pas chers, disait au missionnaire qu'elle était la sœur de la mère de Kim. Mais sa mère, d'abord bonne d'enfant dans la famille d'un colonel, avait épousé plus tard Kimball O'Hara, jeune sergent porte-drapeau des Mavericks, régiment irlandais. Il occupa ensuite un poste sur la ligne de chemin de fer Sind Pejam Delhi et son régiment retourna en Angleterre sans lui. La femme mourut du choléra à Ferozepore et O'Hara se mit à boire et à vagabonder le long de la ligne avec le bébé de 3 ans qui ouvrait ses yeux vifs. Des chapelains, inquiets de l'enfant, tentèrent de s'en emparer. Mais O'Hara disparut, toujours errant, jusqu'au jour où il rencontra la femme qu'il fumait l'opium, en prit le goût avec elle et mourut comme meurent dans l'Inde les blancs qui n'ont point d'argent. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de la teneur du livre. Et donc vraiment, je vous conseille de lire ce Kim de Rudyard Kipling, qui, à mon avis, si vous devez lire un livre de cet auteur, eh bien, c'est celui-ci. Voilà.
Chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. Merci à Elsa Gourmand pour sa revue de presse fort osée. À la chemise à rayures, vous avez pu entendre M. Fauconnier nous parler de la couveuse maraîchère, Philippe Tellier du réseau Sortir du nucléaire et Kotoé la japonaise qui vous donne tous rendez-vous samedi soir au Familial. Merci à Sylvie Boulard et à sa parenthèse littéraire consacrée à la littérature indienne. Côté musique, vous avez pu entendre Mad World de Gary Jules, une chanson paillarde choisie avec soin par Elsa Gourmand. Dans les CD de la semaine, La Rose par l'Orchestre National de Barbès. Merci à Philou et à la Technique. On se retrouve demain à 10h10 ou à 17h10 en rediffusion pour une émission spéciale sur les 100 ans de la LPO. Nous recevons en direct Alain Hardy. Bonne journée et soirée à toutes et à tous.